Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct.
Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin.
Et par extension wa muslima.
Est-ce qu'il faudra tirer ces références des savants de sa région?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf rabbi, rabbi ya'arf mimouna, mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez le hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, monsieur, bonjour, salam, azoul, bienvenue à vous sur les ondes positives de Au cœur de l'islam en ce mois haut en énergie bénéfique, Ramadan, le mois du Coran et le mois de la spiritualité. Mais sentez-vous vraiment cette onde? La percevez-vous réellement? Puissions-nous tous atteindre la piété qui est
l'une des vocations de ce culte qui est le jeûne?
La clé du pardon et de l'absolution totale de la part de Dieu subhanahu. Salam alaikum Kamel Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors nous sommes le 16e jour de Ramadan, nous entrons plein pied dans la deuxième quinzaine, la plus courte, celle où les jours vont s'accélérer et les nuits se rallonger. Nous reviendrons certainement dans les détails sur les 10 meilleures nuits de ce mois,
Inch'Allah.
Celle qui renferme cette Layla Khairun min Alfi Shahr.
Oui.
Kamel Shekat, Ramadan pourrait bien être considéré comme le mois de la femme.
Normalement, tout comme il est le mois par excellence de l'être humain, puisque si Dieu a placé en ce mois béni une nuit qui vaut un peu plus de 83 ans d'assiduité au culte, ceci veut dire que l'homme est au centre de cette attention divine. Et qui dit homme dit aussi femme, tout simplement, du moins dans la conception coranique.
Donc moi de la femme par excellence, c'est elle qui rythme la journée et les nuits des jeûneurs petits et grands. Mais avant tout cela, Kamel Shekat, j'aimerais vous demander si vous aviez quelques petits messages à transmettre à nos jeûneurs pour cette deuxième quinzaine, avant d'entamer notre grand sujet d'aujourd'hui.
C'est un petit rappel de ce fameux hadith qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en montant sur sa chair, a dit à trois reprises « Amin, Amin, Amin » et les compagnons lui ont posé la question. Tu dis « Amin » alors qu'ils n'ont entendu personne adresser de supplique ou quoi que ce soit de ce genre. Et c'est là qu'il leur dit « Jibril est venu à moi et a dit que celui qui a atteint ce mois sans se voir ou sans se faire pardonner tous ses péchés, qu'il soit éloigné, ou bien que Dieu l'éloigne. Aba'adahu Allah. Fakultu amin. » Ceci veut dire que, déjà du fait même de se retrouver plein pied dans ce mois béni, c'est une aubaine. Que le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, en parlant de manière générale du jeûne, surtout quand le climat est doux, comme c'est le cas actuellement, il a dit, tilka al-ghanimatul barida. C'est le tribut de guerre que vous avez avec une facilité terrible. Tant que le mois n'est pas encore écoulé, la période, on va dire, culminante, qui est la dernière décade, n'est pas encore atteinte, essayons d'en profiter.
Le compte à rebours, donc la nuit du 21,
oui,
c'est cela?
Oui, absolument.
Alors, Kamel Shekat, durant le mois de Ramadan, durant ce mois-ci, nous avons assisté à la réalisation de quelques hadiths classés faibles par certains oulémas de la nation et qui se sont réalisés. Et l'on ne cessera jamais de rappeler ce que disait le prophète alayhi salatu wasalam. Balliru anni wa law aya wa hadithu an bani Israila wa la haraj. Kamel Shekat, avant d'aborder les grandes questions de cette thématique, je voudrais vous faire réagir sur les événements qui se déroulent au Proche-Orient autour de nous, les débats ne cessent de grandir et tout le monde en parle sans vraiment être au courant du fond des choses. Le musulman, je ne sais pas si je dois dire sunnite ou le musulman tout court, que doit-il savoir de ce conflit régional ou religieux ?
Écoutez, il faut pas se laisser aller à, essentiellement à la division, parce que moi j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent et qui disent que oui, bon, finalement les chiites sont nos ennemis, ce ne sont pas des musulmans, etc. Bon, les chiites sont musulmans, que vous le vouliez ou non, ils sont musulmans. Nous pouvons avoir des divergences avec ces chiites, mais ils demeurent musulmans. Alors moi, ce que je n'arrive pas à comprendre chez bon nombre de musulmans, c'est que ils arrivent dans l'équilibre qui est en train de se jouer ou dans les équilibres qui se jouent actuellement. Par exemple, si je devais prendre en considération l'aspect économique de la chose, beaucoup voient, par exemple, dans les Chinois, des alliés stratégiques. Ne serait-ce que sur le plan économique, beaucoup, par exemple, face à l'avidité, on va dire, occidentale, de manière générale, ces pseudo-grandes puissances qui ne sont des grandes puissances que parce que nous sommes trop faibles, ou bien nous leur accordons beaucoup de puissance.
Oui.
Le problème, c'est que beaucoup arrivent à voir, par exemple, dans le bloc Est, autant la Russie que la Chine, des alliés stratégiques face à cette avidité occidentale, face à une nouvelle forme de croisade en quelque sorte, mais n'arrivent pas à voir dans les chiites des alliés stratégiques face à un ennemi qui ne cesse de déclarer qu'il est l'ennemi de la nation musulmane avec cette pseudo-judéo-chrétienté qui ne va absolument rien dire. Donc, nous sommes pratiquement à la croisée des chemins. C'est-à-dire que, voilà, il y a énormément de choses qui vont se jouer et le musulman digne de porter ce nom devrait normalement aller vers ce qui fait de lui un musulman, à savoir être du côté de la justice, quelle que soit la partie qui subit ou qui porte préjudice à cette justice. Nous savons, selon ce qui a été dit, essentiellement, c'est Ibn Taymiyyah a tout synthétisé dans une citation qui dit « Inna Allah yansuru al-dawlata al-kafirata al-adila ala dawlati al-muslimati al-dalima » Dieu se met du côté de la nation impie ou mécréante juste contre la nation musulmane injuste. Donc, dans des situations de ce genre, où est le bon droit ? Où est la justice ? Et qui est l'auteur de l'injustice ? On se met toujours contre celui qui est agresseur, qui est auteur d'une injustice. Point barre.
Ouais. Et qui est l'auteur de cette haine confessionnelle, comme M. Katon a vu et lu des vertes et des pas mûres. Et vous devez l'avoir lu sur les réseaux sociaux. Il y a eu une tonne d'agressivité dans les propos et dans les écrits des uns et des autres sur la toile. Il y a des gens justes qui ont su rebondir et remettre les pendules à l'heure, à l'image de votre acolyte d'ailleurs et co-auteur dans la traduction du Coran, qui à chaque fois a rebondi pour installer un semblant de sérénité dans les débats. Qu'est-ce qui suscite cette haine confessionnelle ? Ce n'est pas un pilier de l'islam. À croire que les chiites ont le même Dieu que nous, le même prophète ?
Écoutez, il y a...
Et le même livre ?
Oui, toute cette haine contre le chiite, elle est née juste après le fait que l'on ait pris conscience du danger que représentait la révolution iranienne. Après la prise du pouvoir par Khomeini et les gardes de la révolution, l'Occident tout entier a vu que l'ancien gendarme, parce que l'ancien gendarme du Proche-Orient, c'était pas les Israéliens, c'était le Shah d'Iran. Pour comprendre tout cela, lisez l'Iran insurgé de Paul Balta, et vous allez bien comprendre. Et ensuite, on a instrumentalisé cette haine religieuse qui a commencé à prendre des formes incroyables, insoupçonnables même avec justement au début des années 80 généralement. Il est vrai que nous avons beaucoup beaucoup de points de divergence avec les chiites. Certains points
au point d'en faire des ennemis.
Certains points sont même d'ordre doctrinal. Et puis, si l'on prend en considération la partie eschatologique, les hadiths que citent les uns et les autres, ça va encore devenir plus grave. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui peuvent susciter certaines suspicions de la part des sunnites, ceux qui se disent sunnites vis-à-vis des chiites. Mais là, essayons de tout recadrer.
Mais que faites-vous du hadith du prophète avec Salman Farisi, comme
oui, oui, Ahlul Bayt. Il y a même un hadith qui ressemble à celui que l'on attribue généralement aux gens de Gaza, qui concerne justement Ahlul Bayt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis un certain nombre d'années, ils ont eu beaucoup plus de positions honorables concernant les questions qui devraient regrouper tous les musulmans, à l'instar de la question palestinienne, qui ont été beaucoup plus justes, beaucoup plus nobles, beaucoup plus honorables que celles des sunnites, qu'on le veuille ou non. Faisons un petit rappel de l'histoire. Le mot « chiite » signifie « partisan ». Même concernant quand Moïse est intervenu pour défendre l'israélite contre l'égyptien qui l'a tué, il est dit hada min shi'atihi wa hada min aduwwihi. Celui-ci fait partie de ses partisans et l'autre fait partie de ses ennemis, c'est-à-dire l'égyptien. Le mot shi'a désignait tous les musulmans qui ne pouvaient supporter de voir les proches du messager de Dieu alayhi salat wa salam malmenés par les Omeyyades. Ce n'est que par la suite que ce sentiment, cet élan du cœur a été pris en charge, on va dire, par un juif qui s'appelle Abdullah ibn Saba, huwa yahoudiyun min yahoudi al-Hira, et qui a su transformer cet élan, cette ferveur que l'on avait pour l'Ahl al-Bayt en contestation politique. Et jusqu'à un certain stade, quand on disait d'un savant, alors nous avons énormément de grands savants, si vous lisez leur biographie, chez les plus grands biographes, hein, même l'imam Dahabi, Sir Alam Nubala, par exemple, on vous dit « un tel était chiite ». Ça ne veut pas dire qu'il était chiite comme on l'entend aujourd'hui, ça veut dire tout simplement qu'il était un opposant aux Omeyyades. Et face aux Shia, il y avait Nawasib. C'était ceux qui étaient alliés, affiliés aux Omeyyades à outrance. Donc il y a des divergences, mais ces divergences, que vous le vouliez ou non, elles ne peuvent en aucun cas faire de ceux qui les ont adoptés des mécréants. La yartaqi dhalika ila al-kufr. Personne ne pourra dire cela. Et puis toute cette question a été instrumentalisée. Et le problème, c'est que nous sommes toujours en train de faire la même erreur, à savoir mettre en péril notre union face à des considérations que tout le monde pourrait dépasser.
Avec notre union et notre sécurité aussi.
Absolument. Là, maintenant, comme je viens de vous le dire, pourquoi n'arrivez-vous toujours pas à voir en ces chiites des alliés stratégiques ? Mettons la religion de côté. Nous sommes dans une guerre ouverte avec des puissances essentiellement occidentales, appuyées par des suppôts, par des larbins, des petits larbins des pays du Golfe, pour ne pas citer les États. Et ma foi, subhanallah, qu'est-ce qui se passe dans ce monde ?
Kamal Chekat, je vous ai fait réagir sur les hadiths du prophète alayhi salam en parlant de faire ça à la fin des temps,
oui.
L'Iran d'aujourd'hui, alors qu'il y a un dit vraiment très percutant.
Oui.
Au sujet de la religion à la fin des temps, où le prophète alayhi salatu wasalam dit لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله, et de la tapoter sur la cuisse de Salman al-Farisi.
Oui, ça veut dire qu'il a désigné le hadith auquel je faisais allusion à l'instant, c'était un hadith que l'on suppose concerner les gens de Gaza. Et dans l'autre version, il est dit « Qui sont-ils aux messagers de Dieu ?» Et il a désigné Salman al-Farisi et les siens. Ça veut dire que c'était les farsis, on va dire, qui allaient le faire. Il y a un autre hadith aussi.
Oui, exactement.
Qui parle d'une communauté qui va émerger de l'ouest, min al-gharb. Ibn Taymiyyah disait que ça concernait l'ouest de la région du Shem. Cheikh Tahrir al-Jadd rahmatullahi alayhi disait la yati al-jadid illa min al-maghrib. Il disait je parle de cette partie du monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Maghreb islamique. Ceci veut dire que vers la fin des temps, bien que les choses iront au plus mal, il subsistera dans cette nation de l'islam toujours et jusqu'au dernier moment de l'existence du genre humain sur cette planète, il restera toujours des gens de bien qui auront assez de foi, assez de courage pour s'opposer à l'injustice et à la tyrannie. Nous avons une multitude de hadiths jugés authentiques, comme le hadith que vous venez de citer. Il est rapporté par Muslim d'après Abu Huraira. Quand nous avons comme ça une multitude de hadiths, nasluku maslak al-jama, c'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation de compiler les textes pour sortir avec un avis consensuel, que la chose concerne l'aspect cultuel, l'ibadat, le fiqh, etc., l'aspect juridique, ou même une analyse qui aurait trait à la religion ou à l'étude même d'un texte fondateur ou d'un ensemble de textes fondateurs. Donc le bien peut arriver de toutes parts pour cette nation. Il faut rester dans cette logique, tout simplement.
Et puis ne pas s'avancer sur les questions où on a peu de détails ou même ignorants parfois. Parce que parmi les choses ou les insanités qu'on a entendues et lues ces derniers temps, c'est que les gens ont jeté l'anathème sur le guide suprême iranien.
Oui.
Sans être partisane de Ali Khamenei.
Écoutez.
On sait que c'est un grand savant, qu'il est de Ahlul Bayt, un descendant du prophète alayhi salatu wasalam ou de Fatima alayhi salam.
C'est ce qui se dit, oui.
On a vu sur les réseaux sociaux des gens qui se sont posés la question, est-ce qu'il faut
C'est de la bêtise. Honnêtement, arriver à ce stade en termes de réflexion, ça dénote beaucoup, beaucoup de mauvaises choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous devons, surtout face à ces hadiths qui relèvent de l'eschatologie, comme nous l'avons précisé à maintes reprises. Maintenant, nous n'avons pas vocation à faire de la géopolitique dans cette émission. Bien entendu, l'islam est un mode de vie, c'est notre politique dans la vie d'ici-bas, et notre politique doit être théocentrique, c'est-à-dire que même nos systèmes de gouvernance, nos gouvernants, nos leaders devraient être animés ou être investis par cette notion théocentrique, c'est-à-dire nous prenons toujours comme repère la religion et nous gravitons autour dans tout ce qui a trait aux affaires du monde d'ici-bas. Maintenant, ceux qui nous disent que la provocation elle est venue de la part des Iraniens. Écoutez, même si vous n'avez pas assez de profondeur ou de largesse d'esprit pour faire une analyse sérieuse, rien ne vous empêche d'aller, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, consulter, par exemple, voir ce que dit une personne qui jouit quand même d'une objectivité.
Comme
Michel Collomb, oui. Par exemple. Il y a beaucoup de spécialistes auxquels vous pouvez vous référer.
Ou Pascal Boniface de l'IRIS.
Oui, oui. Là, puisque vous avez besoin de quelqu'un, antum fi hajatin ila man yuftikum fi hadhihi al-qadaya. Vous avez besoin de gens qui vous éclairent sur ces problèmes. Allez vers les spécialistes qui sont doués d'objectivité et d'honnêteté intellectuelle, tout simplement.
Fas'alou
ahl al-dhikr, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est fas'alou ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamoun. C'est un appel au respect de la spécialité par le livre de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, je ne sais pas, moi, quand je suis dans une impasse de ce genre, quand je suis dans la confusion, je diversifie mes sources pour faire la part des choses entre ce qui est bien, ce qui est mal, pour faire preuve de discernement, tout simplement. Et Dieu nous a tous dotés d'un minimum d'intelligence qui nous permette de faire ce travail.
Ce que les gens ne font pas autour de nous.
Oui, la majorité, ils sont affiliés à un pôle. Et puis voilà, moi, je supporte les miens. Quelle qu'en serait l'issue ? On ne cherche plus à comprendre. Et ça n'est pas bon. D'un autre côté, nous sommes en train de parler d'eschatologie. Honnêtement, nous avons parlé au tout début du mois de Ramadan du comportement de nos musulmans pendant ce mois de Ramadan. Nous faisons exactement le contraire de ce qui doit être fait. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est une personne, par exemple, qui passe sa journée à dormir, qui se réveille à 17h, 17h30, et qui se démène. Il y a des gens, c'est des réalités, hein, nous sommes dans l'obligation de les citer. Il y a des gens, surtout la population des jeunes, qui se réveillent à 17h, ça veut dire qu'il reste à peine 1h40, 1h45 qui les sépare du crépuscule. Le problème, c'est que c'est la panoplie du mauvais comportement qui sort de la maison avec cette personne. Pire que cela, la majorité, ils sont en recherche d'un psychotrope ou d'un jeu de quelque chose pour rouler leur joint juste après Adhan al-Maghrib. Et ce que moi, j'arrive pas à comprendre, c'est que je vois beaucoup d'engouement chez ce genre de personnes pour Salat Tarawih. Mais toi, attends, soyons sérieux. L'obligation principale de ce mois qui est le jeûne, tu ne l'as pas respecté, tu l'as même bafoué. Et ce qui est d'ordre surérogatoire, tu vas faire tout un folklore pour nous allons faire Salat Tarawih.
C'est la tendance actuellement, Kamal Chekat.
Et puis, dans cette Salat Tarawih, nous le remarquons dans toutes les mosquées. Et je vais le redire parce que c'est un problème que nous vivons au quotidien. Surtout pour ceux qui habitent à proximité d'une mosquée, ce qui est mon cas. Je le vois tous les jours. Les gens qui stationnent n'importe où, les gens qui vont faire Salat al-Maghrib pour réserver une place pour Salat al-Tarawih parce qu'il y a trop de monde. Honnêtement, une personne qui agit de la sorte, Vous pensez que quand le Messie Dajjal sortira, elles ne vont pas le suivre? Tout dans leur comportement dit qu'elles seront les premières à suivre le Messie Dajjal et renier Dieu subhanahu wa ta'ala. Je suis désolé, parce que vous êtes embarqué dans une logique de consommation. Vous consommez, vous ne raisonnez pas. Tout simplement,
ce résultat a été préparé depuis des années.
Bien sûr, il y a des gens qui ont travaillé dessus. Vous savez, la traîtrise que nous connaissons dans nos pays, ce ne sont pas des traîtres qui travaillent avec des forces occultes, qui sont payés forcément par des... Non, c'est des gens qui ont une haine viscérale pour les leurs, pour leurs compatriotes, et qui de ce fait font tout pour que rien ne marche bien dans nos pays. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté, mais j'ai lu une fois l'histoire d'un Britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a été arrêté, emprisonné, parce qu'on le soupçonnait d'espionnage en faveur du Troisième Reich.
Un collabo.
Bien sûr, il a été torturé, etc. Et on lui dit, bon, maintenant tu vas nous dire comment est-ce que tu arrives à te connecter aux nazis, comment est-ce que tu travailles avec eux. Il leur dit, mais écoutez, tout le monde sait que je suis nazi. Le nazisme, attention, il n'est pas né en Allemagne. Le nazisme et tout ce discours sur la race supérieure, la race aryenne, etc. Ça a commencé beaucoup plus chez les Anglais. Et donc lui, c'était quelqu'un qui rêvait de revenir à cette race pure, supérieure, qui était celle des Britanniques, etc. Il discute avec ses tortionnaires, il leur dit, vous nous avez dévoyés, vous avez dévié de la trajectoire initiale, etc. Hitler est meilleur que vous, et j'en passe. Oui, on lui dit, mais maintenant, dis-nous, comment est-ce que tu arrives à entrer en contact avec les nazis, avec les Boches, comme on dit. Il a dit, mais il n'y a jamais eu de contact avec les nazis. Je suis pour leur manière de voir, mais j'ai jamais été en contact avec eux. Ah bon? Et comment est-ce que tu es en train de les servir? Il dit, je mets les personnes les plus médiocres dans les postes les plus sensibles. Et ça suffit. C'est ce qui s'est passé pendant des décennies dans nos pays. Il y a des gens qui ont travaillé sur ça. Vous savez, ce qui nous ferait rallier les rangs ou les légions de l'Messie Dajjal, c'est le fait de ne pas de nous occuper beaucoup plus sur ce qui a trait au Messie Dajjal, comment est-il, quand viendra-t-il, etc., plutôt que de nous concentrer sur nous-mêmes.
Nous construire.
C'est ça. Bientôt, nous arrivons bientôt dans la dernière décade de ce mois béni, un mois durant lequel il y a Laylat al-Qadr, une nuit qui vaut 83 ans.
Et 4 mois. Ans,
oui, et 4 mois, 1000 ans, 1000 ans d'adoration accrue, voué à Dieu subhanahu wa ta'ala, dans les meilleures dispositions du cœur. Je permettais cette expression c'est juste pour expliquer que ce salaire, cette rétribution, elle ne peut être due qu'à quelqu'un qui a fait les choses en ayant un cœur qui était présent. Qalbuhu hadirun lillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, qalbuhu hadirun lillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, tout nous a été donné pour que nous puissions nous concentrer sur nous-mêmes, nous construire, nous forger, nous renforcer et aller vers ce qui plaît à Dieu. L'islam est une religion qui vous offre justement ces voies. Il y a un livre qui s'intitule « Ifham ul-Yahoud ». Il a été écrit par Ibn Yahya al-Maghribi vers le VIe siècle. C'était l'un des plus grands rabbins que les juifs aient connus. On l'appelait l'Ibn Taymiyyah des juifs. Dans son livre, c'est un livre qui a été authentifié même par Brockelmann, Ifham ul-Yahoud. Ifham ul-Yahoud, c'est-à-dire réduire les juifs au silence par l'argumentation. Vous savez ce qu'il dit de la religion juive? Il y a lui, il y a aussi Risal al-Sab'iniya. Les deux livres parlent de la religion juive en disant ce qui suit. C'est une religion obsolète. Pourquoi? Parce que pour peu que vous fassiez une erreur, elle ne vous permet même de vous repentir. Alors que, voyez l'islam. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Nous l'avons étudié ce verset. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, subhanahu wa ta'ala, d'Allah. Pourquoi ne pas faire ce travail sur soi-même? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, comme le dit si bien le Coran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ, لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. C'est-à-dire, prenez Mêlez-vous de vos propres affaires, occupez-vous de vous-même. Quiconque dévie, quiconque s'égare ne peut en aucun cas vous nuire. C'est comme ça qu'on devrait réfléchir quand on est musulman. Et donc, dans un conflit pareil, essayez d'aller à l'essentiel.
L'essentiel qui est ? C'est un conflit religieux ?
C'est un conflit, il peut être religieux, il est politique. En tout cas, tout est bien instrumentalisé. Bon, bien sûr,
le livre d'Esther,
il est religieux.
La guerre de 73.
Oui, tout est relié pratiquement au livre d'Esther. C'est une question de revanche, etc.
Contre les Amalek.
Et là, oui, les Amalek, c'est pas les ça
Iraniens.
Ne peut en aucun cas être les Persans. Ouais. Ça n'est pas possible. Les Amalek, c'était l'Amalek qui était les Philistins.
Ouais.
Qu'on le veuille ou non. Non, maintenant, on veut... Bon, vous savez, ces gens-là, ils
mais
sont...
Mais tous ceux qui ont été les auteurs du génocide du juif sont des Amalek pour eux.
Mais c'est beaucoup plus pour classer ou pour placer ce qui se passe dans un cadre religieux. Ouais. C'est comme quand on veut tuer, on veut se livrer à des crimes rituels à travers Pourim, Passover, etc.
Bientôt,
donc
d'ailleurs.
On suscite des guerres. Et on va faire une effusion de sang, on va être l'auteur d'une effusion de sang pour plaire, soi-disant, à Dieu. Alors que ça n'a absolument rien à voir avec la religion qui a été révélée à Moïse.
Allez, c'est bientôt Pourim. À quoi faudra-t-il s'attendre, Kamel Shaka?
À des crimes rituels au maximum.
Et le sacrifice d'enfants.
Généralement, c'était des sacrifices d'enfants. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tirer sur des gens et les laisser suinter, se vider de leur sang, en empêchant quiconque voulant leur porter secours. Ça marche comme ça. Maintenant, ce qui m'importe le plus, ça n'est pas ce que fait l'ennemi ou celui que je considère
absolument
comme étant mon ennemi. C'est de bonne guerre, à la limite. C'est un ennemi. Nous, musulmans, qu'est-ce que nous sommes censés faire dans ce genre de situation? Où est la justice? Où est l'injustice? Nous avons tous un pouvoir discrétionnaire qui nous permette de faire la part des choses. Une fois que les choses sont plus ou moins claires, choisissez le bon camp. Mettez-vous du bon côté de la barrière. Pas plus ni moins.
Que les croyants ne prennent pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants, quiconque le fait n'a rien à attendre d'Allah.
Oui, mais
verset
attendez,
de la sourate Al-Imran.
Si j'ai face à moi un musulman qui porte préjudice à un juif, sans raison aucune, qui l'agresse, qui veut porter atteinte à sa vie, je me mets du côté du juif. Ainsi fonctionne l'islam. Ça s'arrête là. C'est ce qui a été fait par les premiers musulmans, par le messager de Dieu, c'est ce qui a été fait par les premiers musulmans, et il n'y a absolument rien qui fasse que nous changions d'attitude. Nous sommes la nation du bien, nous sommes la nation de la justice. Et à ce titre, nous nous mettons toujours du côté de la justice, fût-ce contre nos proches.
Mais Kamel Shaka, comment éviter que la haine s'empare de nos cœurs? Cette fameuse mudra dont le prophète a cité dans ses hadiths.
Et le problème, c'est que parce que personne ne réfléchit par lui-même, nous réfléchissons sous le prisme des médias lourds. Et les médias lourds, c'est de la communication soutenue, c'est de la propagande, c'est des gens qui sont derrière. Et ce sont ces gens-là qui font l'opinion. On fabrique de l'opinion actuellement avec les médias. Les médias avant servaient de contrepoids au pouvoir. Maintenant, ce sont des vecteurs qui fabriquent l'opinion.
Alors, comment préserver son cœur lors de grandes épreuves?
Nous sommes dans un mois...
Dhikr Kamel
Shaka. Oui, bien sûr, nous sommes dans un mois béni. Tout est propice à cela, c'est-à-dire que tout, normalement, devrait nous aider à aller bien, à aller mieux et à être en bon terme avec ce qui est préconisé par la religion. Et à être en bon terme et aussi avec Dieu. Moi, je ne comprends pas comment nous arrivons à faire en sorte que les petites choses, entre guillemets, deviennent aussi grandes et nous mènent vers notre perte. Vous savez, là, nous sommes face à un conflit. Il n'y aurait pas eu ce conflit, nous aurions surdimensionné le fait qu'une partie des musulmans ait commencé le jeûne le mercredi, une autre partie le jeudi, et puis vers la fin du mois de Ramadan, il y aura peut-être aussi cette divergence ou cette différence, et tout le monde en parlera à fond, alors que nous oublions toujours tous que même si nous n'avons pas jeûné ou rompu le jeûne au même jour, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu, pour toute cette nation musulmane, 28 jours où tout le monde était
en symbiose parfaite.
Pourquoi la magie n'opère-t-elle pas? Parce qu'il y a un problème en nous.
Pourquoi nos vœux ne sont pas exaucés?
C'est ça. Nous sommes toute une nation à adresser à Dieu.
Nous lisons le Coran, les qiyams, les...
Pourquoi rien ne se fait? Parce que, comme nous l'avons déjà dit, c'est à nous de faire ce changement, de l'opérer. Et puis, quand on dit, rappelons ceci, parce que c'est très important. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une situation jugée par la religion comme étant anormale. Parce que Dieu nous dit dans le Coran « وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا » Ne semez pas la corruption sur terre après que Dieu l'ait réformé. Ça veut dire que quand les humains, quand Adam alayhi salam et sa première descendance ou ses premiers enfants sont venus sur terre, la terre sur le plan, cette terre au niveau de son écologie, son air, etc., elle était au top. C'est les humains qui l'ont corrompu. Et le problème, c'est que quand Dieu nous dit, par exemple, « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim », ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne laissera jamais une situation aller au plus mal si les gens ne font pas en sorte qu'elle aille mal ou qu'elle aille vers ce qui va mettre les gens dans une gêne terrible. Ça veut dire, parce que beaucoup traduisent ce verset en disant « Dieu ne change rien à l'état d'un peuple avant qu'il n'opère leur propre transformation ». Ça veut dire que si tu veux réussir, tu dois travailler pour réussir. Tu es dans une situation lamentable, tu veux que ça change, tu dois faire un effort pour que ça change. Ça, c'est une vérité absolue. Mais ce que veut dire ce verset, c'est « N'oubliez pas que Dieu vous a tout donné sur cette terre » pour que vous viviez dans les meilleures conditions. C'est vous qui les avez corrompues, c'est vous qui les avez compromises, ces conditions. Par quoi? Par votre attitude, sur tous les plans. Il ne s'agit pas uniquement du plan religieux, dogmatique et j'en passe. Non, même vos modes de vie, votre manière de consommer, etc., tout ça a concouru à cette situation lamentable dans laquelle nous nous retrouvons actuellement. Ce qu'il faut prendre en considération actuellement, c'est que nous avons beaucoup de travail à faire, et ce travail, ça n'est pas à Dieu de le faire, subhanahu wa ta'ala, c'est aux humains de le faire.
Alors Kamel Chekat, j'ai encore deux points à relever avec vous sur cette réalité qui nous est imposée. Le premier point, c'est une question. Est-ce qu'il faut, pour le musulman, est-ce qu'il est nécessaire qu'il soit au courant de tout, d'être au courant de ce qui se passe autour de lui? Cette information qui risque de nous égarer, de nous faire perdre l'essentiel.
Écoutez, un musulman est déjà censé s'enquérir de l'état des autres musulmans. C'est-à-dire que nous devons être à l'écoute de nos frères. Nous devons au moins compatir à leur peine, à ce qui leur arrive comme malheur, comme tragédie. Maintenant, pour ce qui est de l'information elle-même, nous vivons dans un monde qui est tellement pollué, tellement perverti que, ma foi...
L'infobésité.
Oui, il vaut mieux par moments rester en retrait ou prendre du recul. Nous sommes dans le mois de Ramadan, c'est un mois où il serait bon de se laisser aller à cette confiance que nous devons témoigner à Dieu, à cette bonne opinion que nous devrions avoir de lui. Husnuddhanni billah. Et à partir de là, tout ce que je trouve pour moi-même face à cette situation, c'est de me réfugier dans la prière. C'est ce que me conseille le Coran, de toute manière, et la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais combien sommes-nous à faire cela, en connaissance de cause? Non, les gens préfèrent être au fait de ce qui se fait en termes d'actualité. Beaucoup sont happés carrément par cela, et oublient l'essentiel, à savoir se tourner vers Dieu dans l'état de faiblesse qui est le nôtre, compter un peu sur son secours, un tant soit peu. Ça, nous ne le faisons pas. Nous attendons que les autres le fassent. Qui sont les autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en termes de laisser aller, d'oisiveté intellectuelle, physique, dans tous les sens, en termes de laxisme, nous avons vraiment obtenu la palme d'or.
Donc Kamel Shakat, arrêtez d'être au cœur de l'information.
Évitez cela, parce que ça ne vous apportera absolument rien de bon. À l'heure actuelle, ça n'apporte absolument rien de bon. Moi-même, vous savez, bon, je ne suis pas plus intelligent que la moyenne nationale, mais j'essaye de m'éloigner autant que faire se peut, justement, de tout ce qui est médiatique. Je suis bien au courant de ce qui est en train de se produire, et je n'ai, dans ma faiblesse, je n'ai d'autre alternative que de me tourner vers Dieu, en le priant. Parce que franchement, certains ont pratiquement tout fait. Quand je dis certains, c'est-à-dire ladina yahmiluna hamma hadhihi al-umma, ceux qui ressentent la douleur de cette nation, malheureusement. Tout ce que nous sommes en train de perdre.
Travailler sur l'union et l'unité, Kamel Shakat.
Absolument.
Donc arrêtez de dire je suis sunni, chiite, maturidi, ash'ari, soufi.
Les premiers qui ont dit nous sommes sunnites sont des gens qui devaient le faire, qui devaient pas se choisir une appellation, mais qui devaient se distinguer de tout ce qui se passait à l'époque où ce terme a été en quelque sorte inventé. Parce que vraiment, il y a eu une dérive terrible au moment où certains se sont dit nous min ahli sunnati wal jamaa, nous et le jamaa, nous suivons donc
la congrégation des oulémas.
C'est ça, c'est tout le travail qu'il va falloir faire. Et puis n'oubliez pas une chose, nous sommes en Algérie. Vous n'avez pas remarqué dans les prêches ou les oraisons du vendredi, tous les imams prient pour l'Algérie prient pour la nation musulmane tout entière, mais nous devons aussi faire des prières pour l'Algérie.
Exclusivement.
Nous sommes un pays qui a connu beaucoup de mauvais épisodes, on va dire, dans notre histoire contemporaine. Et dans ce conflit planétaire, nul d'entre nous n'est hors de portée. Tout le problème est là. Alors, il va falloir justement s'animer de ce désir d'unir les musulmans pour rester unis dans notre pays. Parce que cette désunion, elle va forcément avoir des répercussions sur l'union même nationale.
Certainement.
Que vous le vouliez ou non. Parce que la désunion en elle-même a été instrumentalisée religieusement. Certains lui trouvent des fondements d'ordre religieux. Je ne peux pas m'allier à un tel parce qu'il est mon ennemi au nom de la religion. Et ça, c'est plus que grave.
Le deuxième point, Kamel Shakat, concerne le guide suprême iranien. Je me permets de vous lire un post de votre ami Mesoud Boudjounoun que je trouve vraiment très juste. Alors, il écrivait, le défunt guide de la République islamique, Allah yarhamou, a pris de son vivant deux fatwas, l'une bien heureuse, l'autre négative, malheureusement. Alors, dans la première fatwa, il a interdit formellement toute insulte des compagnons du prophète, alayhi salat wa salam.
Oui.
Dans la seconde, il a interdit l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins militaires, en disant que cela est incompatible avec les préceptes de l'islam. Et là, il avait eu tort. La conjoncture actuelle nous l'a montré.
Absolument.
Votre commentaire, Kamel Shakat.
Oui, alors là, bon, je salue Mesoud Boudjounoun au passage, et c'est vrai, c'est une réalité. Nous ne devons pas rester des fidèles inconditionnels aux préceptes de l'islam. Il faut agir avec intelligence. Le mensonge est une chose qui est interdite dans la religion musulmane. Mais nous avons le droit de mentir en temps de guerre, nous avons le droit de mentir pour améliorer ou faire en sorte qu'une relation rompue reprenne. Et nous avons le droit de mentir pour qu'un couple ne se sépare pas. On ment à la femme en disant, voilà, ton mari a dit tel et tel bien de toi alors que ça n'est pas le cas. Et au mari, on va dire, tu sais, ta femme a fait telle et telle chose pour ton bien-être alors que c'est faux. C'est un mensonge, mais qui est plus ou moins comme le dit si bien un hadith du messager de Dieu, alayhi salatu wasalam. Et à partir de là, nous agissons en fonction de ce que nous avons comme problème. Ce qui est bien dans la religion musulmane, c'est que rien n'est figé. Ce qui est interdit aujourd'hui peut devenir licite demain, parce que des raisons pourraient pousser à une sorte de levée temporaire de l'interdit en question, et vice-versa. C'est vrai, c'est une erreur que peut-être les Iraniens sont en train de payer, mais en tout cas...
Mais est-ce un acte moral, Kamel Shakat, de jeter une bombe nucléaire sur des populations?
Bien sûr que c'est un acte immoral.
Oui.
Mais quand vous avez des ennemis qui en ont et qui peuvent vous balancer pareil en gens dans une ville surpeuplée, ma foi, posséder une arme de ce type pourrait faire
arme de dissuasion,
tout simplement.
Même si Dieu dans le Coran dit وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ.
Oui, تُرْهِبُون ici, c'est pas l'irhab, terrorisme. Ouais. تُرْهِبُون ici, dissuader. Signifie dissuader les ennemis de Dieu. Absolument, nous devons nous fortifier, nous renforcer, et renforcer nos frères, afin que nul d'entre nous ne soit agressé. Mais là, pour revenir à l'essentiel, sur le plan religieux, il n'y a absolument rien qui indique que nous devions être hostiles au peuple iranien. Je suis désolé, nous n'avons pas le droit de faire ça. Je voudrais juste rappeler une chose. Le messager de Dieu, alayhi salatu salam, dans ses oraisons du vendredi, il traitait de sujets d'actualité. Et bien sûr, il était dans cette logique théocentrique, c'est-à-dire que, voilà, les choses de la vie, nous n'avons pas besoin d'avoir une finance islamique, nous n'avons pas besoin d'avoir des souks islamiques, nous n'avons pas besoin d'avoir des états islamiques. Mmh. Nous avons besoin d'une économie saine, qui soit respectueuse de la dignité humaine. Nous avons besoin de souks où ce sont des gens imprégnés d'une éthique qui correspond à ce qu'ils devraient avoir en termes de comportement, qui les rehausserait au stade d'être humain. Et nous avons besoin de d'états qui soient respectueux de la liberté, des droits de l'homme, etc., de la justice. C'est ça, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de tout labelliser par un « islamique » pour le rendre licite, halal ou conforme à la sharia. Donc, ce que je veux dire, c'est que le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, très souvent, quand il était sur sa chair, il disait « ma balu aqwam », que pourrait-on dire de gens qui font telle ou telle chose, en parlant de certains mots qui commençaient à prendre de l'ampleur dans la société. Et si nous nous intéressons à ce type de sujet, c'est pas parce que nous avons vocation à faire de la politique, on va dire, licite, comme pourraient le voir certains. C'est tout simplement, ça se fait dans notre désir d'apporter une correction à des déviations. Ceci ne veut pas dire non plus que nous sommes des icônes de la moralité, de je ne sais quel autre beau principe. Nous sommes des musulmans comme tout le monde, qui sont passibles de faire des erreurs, mais rien ne nous empêche d'aborder des sujets qui peuvent justement compromettre notre bien-être en tant que peuple, notre bien-être en tant que société, en tant que nation. Et à partir de là, nous sommes pratiquement dans le devoir de parler de ces questions-là. La nation musulmane est au plus mal, elle vit des moments difficiles. Ça me rappelle la simplicité avec laquelle ont travaillé les artisans justement du djihad qui a commencé en 1831-1830, autant les artisans du djihad de 1830 que ceux de 1954.
Préservant ses acquis.
Tout se faisait dans une simplicité terrible. C'est-à-dire, voilà, je discute avec une personne. Il y a des personnes avec lesquelles je dois faire mon exhortation en utilisant des versets coraniques. Il y en a d'autres avec lesquelles je dois utiliser un adage, une histoire, une anecdote, que sais-je. Quelque chose en tout cas qui puisse atteindre, quelque chose en tout cas qui puisse réveiller la conscience de la personne en question. Et là, attention, ne tombons pas dans cette fameuse histoire de Kalila wa Dimna ou Kiltu Yawma ou Kila Tawrul Abiyad. J'ai été bouffé, mangé, dévoré le jour où a été dévoré
le taureau blanc.
Le taureau blanc.
Justement, j'allais vous faire réagir sur cela. Alors que Kamal Chakat, puisque vous avez précédé ma pensée, ce que je retiens de cette émission d'aujourd'hui, c'est qu'il faut, pour nous en tant que musulmans et même en tant qu'humains tout simplement partout sur la planète, c'est d'arrêter d'être au cœur de l'information, arrêter de mettre son grain de sel dans tout et essayer ou tenter d'apporter son soi-disant pseudo-savoir dans toutes les questions, dans tous les plats. se préserver pour l'essentiel et puis toujours garder en mémoire cette fameuse histoire, ce fameux récit du taureau blanc.
Absolument.
Yeshari Dela, n'est-ce pas?
C'est clair.
La valeur du sabr, Kamel Chekat, dans pareil moment?
Là, c'est là que l'endurance ou la patience devient la clé de la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Nous avons fait des guides pour les gens quand ils se sont montrés endurants ou patients et qu'ils croyaient en nos versets ou bien en nos signes avec conviction.
On ne parle pas de passivité dans ce cas-là.
Sabr, vous savez, sabr, ça peut prendre une année carrément. Oui. Sabr, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un principe, de rester, et puis l'endurance, quand vous avez un principe, c'est de rester fidèle à vos principes. Ça, c'est une endurance qui est plus que louable dans la religion musulmane. Maintenant, la passivité, c'est autre chose, hein. Ça a un autre nom.
Donc, ne pas avoir peur d'être différent des autres.
Oui,
en respectant ses valeurs, son éthique et son éducation.
Là où il y a lieu d'être différent des autres. Nous avons un hadith où le messager de Dieu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « La takuno imma'a ». Ne soyez pas conformiste. Quand les gens agissent bien, vous agissez bien. Quand ils agissent mal, vous agissez mal. Non. « Wattinu anfusakum ». C'est-à-dire, prenez conscience de ce que vous devez être.
Rien que ce hadith, Kamel Chekat, pourrait aider les plus grandes écoles qui traitent de la PNL. Ça,
oui,
c'est certain.
Absolument.
La takuno imma'a bel watanu anfusakum.
Absolument.
Kamel Chekat, pour terminer avec ce point sur sabr, l'endurance, dans le kitab Riyad Salihin de l'imam Nawawi, dans le chapitre du sabr, nous avons ce récit rapporté par Suhaib Rumi au sujet de ce fatin avec Sahir et Rahib.
Oui.
Vous vous rappelez de l'histoire?
Alors, c'est un jeune. C'est le sorcier d'un roi qui va demander au roi de lui trouver un disciple, parce qu'il se faisait vieux. On va lui trouver un disciple. Le disciple commence à aller vers lui pour apprendre la sorcellerie, les rudiments même de la magie. Et une fois, il passe par un vieil homme qui a chassé une bête énorme, qui l'a dégagé d'un chemin, laissant ensuite passer, les gens passer. Et il se rend compte que ce qui a été accompli par cet homme n'était pas de la sorcellerie, c'était tout simplement quelqu'un qui comptait sur Dieu,
qui proférait quelques litanies.
Oui, le tour est joué. Alors ensuite, il devient le disciple de cet homme pieux, il va commencer à apprendre, mais à chaque fois qu'il restait chez cet homme, il arrivait en retard au cours même du grand sorcier, ce qui lui valait des réprimandes et même par moments quelques punitions. Ensuite, le sorcier meurt et le jeune homme qui avait bien appris commence à. Il était en quelque sorte le médecin du roi et
il travaillait dans la cour du roi.
Il y a le vizir,
le vice-roi
ou son ministre, son premier ministre atteint de cécité. Il va le guérir. Et l'autre, bien sûr, parce que le roi se prenait pour Dieu, à l'image de Pharaon. Et après l'avoir guéri, l'autre qui était en train de louer le roi qu'il prenait comme divinité, le jeune lui dit « En fait, tu n'as été guéri que par la grâce de Dieu, subhanahu wa ta'ala. » « Ah bon, et qui c'est ce Dieu ?» C'est le Dieu créateur des cieux et de la terre, il lui explique, etc. Et le ministre devient un monothéiste, quelqu'un qui croit en Dieu. La chose arrive aux oreilles du roi. Ensuite, donc, le roi qui va châtier le ministre pour avoir quitté son culte, pour rejoindre un autre culte, celui du Dieu unique, et il va savoir qu'à la base c'était le jeune qui lui servait d'aide ou de conseil ou de sorcier ou de médecin qui était à l'origine de tout cela. Il va aussi donc décider de le tuer, mais à chaque fois qu'il essaye de faire quelque chose, ça ne marche pas.
Allahumma kfinihim bimachet.
Je ne sais pas comment traduire, c'est-à-dire
préserve-moi du mal.
Par ta toute puissance, c'est-à-dire c'est toi qui occupe ton Seigneur, si vous voulez.
C'est le même doua qui a été récité par le prophète alayhissalam lors de l'Exode. Hein.
Allahumma kfinihim bimashat.
Le cavalier qui le suivait, lui,
Suraqa.
Et Abu Bakr Suraqa.
Oui. Allahumma kfinihim bimashat.
Et à chaque fois, il tombait de son cheval par terre.
Oui, il l'a envoyé avec ses gardes pour le jeter en mer. Il a dit Allahumma kfinihim bimashat. C'est-à-dire, occupe-t'en à ma place, Seigneur Dieu, avec ce que tu choisiras comme punition. Tout le monde est tombé en mer, il est revenu tout seul. Ensuite, il l'envoie avec un autre groupe pour le jeter d'une montagne. Il arrive tout en haut, il dit « Allahumma kfinihim bima shi't ». Et là encore, tout le monde tombe et lui, il revient. Ensuite, il dit au roi « Si tu veux me tuer, tu dois le faire en tirant sur moi avec
une flèche. Avec un arc.
Devant assistance, mais en disant, avant de tirer, « Bismi Rabbil Fata, au nom du Seigneur de ce jeune homme, et tu tireras. » Et l'autre, voulant finir avec lui, aveuglé par la colère, il dit « Oui, allez, on va le faire. » Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont rassembler tout le monde, les gens dans un terrain vague. On attache le jeune ou on le met devant un poteau d'exécution ou que sais-je. Et là, il prend son arc et avant de tirer, il dit « Bismir bil fata ». Au nom du Seigneur de ce jeune homme. Et tout le monde était au courant de la situation. Le problème, c'est qu'en prononçant justement cette formule, il venait de s'auto-détruire.
De confirmer.
Devant tout le monde, de confirmer qu'il ne valait rien, qu'il y avait un Seigneur créateur des cieux et de la terre qui gérait tout cela. Et c'est ainsi qu'il tua le jeune homme. Et là, que font tous les témoins? Ils disent « Amen bir bil roulam ». Toi, t'es un faux dieu. Et c'est là qu'il va les punir, etc. C'est là qu'il va les mettre il va les jeter au bûcher, carrément.
Au bûcher, l'écartèlement,
oui,
ils ont tout subi.
Ils ont tout subi. Et là, nous sommes encore dans l'une des phases de l'endurance souhaitée par Dieu. Et ceux dont nous parlons ici étaient soit des juifs, soit des chrétiens.
Mais Ashab al-Ukhdud.
Oui, mais le Coran, quand il nous parle d'eux, nous parle de frères en religion.
Oui, des croyants.
Des croyants comme nous. Nous nous réclamons de ces gens-là, tout simplement.
Quel est l'enseignement qu'on devrait tirer de ce récit, Kamal Shekat? Pourquoi le prophète raconterait pareille histoire au moment où il devait confirmer et instaurer l'islam et ne pas revenir sur tout ce qui est chrétien, juif, païen ou autre chose?
Écoutez, c'est de faire preuve d'endurance dans les moments difficiles. Tout ceci nous mènera vers la septième clé. Elle concerne un problème d'ordre social qui est le divorce. C'est Sourate Talaq, là où il est dit, en parlant des femmes, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Donc, quand il y a prononciation de la formule de répudiation, puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d'elles de façon convenable. وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. Et prenez deux témoins intègres parmi vous comme témoins. Et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. Et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. Ensuite, il est dit, quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Ensuite, on arrive à l'autre verset, le verset 3 de Sourate Talaq, où il est dit, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Donc, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, Allah atteint ce qu'il se propose. Et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Donc là, ce qui nous concerne, c'est l'une bribe qui constitue la fin du verset 2 et une partie du début du verset 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas.
C'est ça. C'est un des outils du sabre, de l'endurance.
Absolument, absolument.
Ah oui, donc
l'issue heureuse, c'est ça. C'est que, quelle que soit cette issue, vous allez recevoir ce qui va vous contenter. Puis n'oubliez pas une chose. Le jour du jugement dernier, on amènera un homme qui a vécu dans la misère et l'injustice les plus absolues dans ce bas monde. On le plongera dans le paradis, on le ressortira en lui disant « As-tu goûté à quoi que ce soit de mauvais ?» Dans ton existence, il a dit « Oh non Seigneur, jamais ». Et on ramènera une personne qui a vécu dans le faste le plus absolu dans ce monde, dans ce bas monde. On le plongera dans la géhenne, dans le feu de la géhenne, on le ressortira en lui disant « As-tu goûté à quoi que ce soit de bon dans ton existence ?» Il a dit « Jamais, Seigneur ». Ça veut dire que maintenant, il y a un choix à faire. Ce choix, il aboutit en fin de compte soit au paradis, soit en enfer. À vous de faire le choix. Qu'est-ce que vous voulez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un peu plus clair. Vous irez tous au paradis, sauf celui qui ne le veut pas. Qui ne le voudrait pas, mes amis?
C'est pas possible.
Celui qui se plie à mes commandements, à mes ordres, entrera au paradis. Celui qui s'y abstient, il n'ira pas au paradis. Parce que ce paradis, il appartient à Dieu. Et ceux qui nous disent, attendez, pourquoi vous dites qu'il y a des gens qui iront en enfer? Parce que c'est Dieu qui l'a dit, parce que l'enfer lui appartient. Vous ne pouvez pas renier Dieu et dire, non, pourquoi je n'irai pas au paradis?
Je vous remercie, Kamal Chakat.
Je vous en
Merci
prie.
Pour cette belle émission d'aujourd'hui. J'espère que les messages seront perçus par nos auditeurs. Nous souhaitons bien sûr la paix et la sérénité partout dans le monde. Dieu fasse que la miséricorde de Dieu prévale partout sur la planète.
Absolument.
Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Sahasiyam Kom et à demain. Au revoir.